Salut à toutes et à tous, au sommaire de cette émission, nous aurons Ariguma Rascal, Grand Theft Auto, Shark Shark, Garo Densetsu Wild Ambition, Keystone Capers, Spider-Man The Video Game, et un dossier sur le Sharp X68000, bienvenue sur Rétrovision. Ariguma Rascal est à l'origine une nouvelle autobiographique signée Sterling North et racontant son enfance passée dans le Wisconsin avec Rascal, un raton laveur qu'il a adopté après que la mère de ce dernier ait été abattue par un chasseur. Cette nouvelle fut ensuite adaptée en série animée au Japon en 1977 par le studio Nippon Animation. Série sur laquelle a travaillé un certain Hayao Miyazaki. Vu le sujet traité, il est bien étonnant de voir cette histoire déclinée en jeu vidéo. Cela n'a pas affolé les programmeurs du studio GeForce, qui nous propose donc un petit puzzle game édité par Masaya sur Super Famicom. Le but du jeu est très simple. Un petit écureuil balancera des pots en verre contenant des fruits, des bonbons ou de la confiture qu'il vous faudra ranger par groupe de trois, verticalement ou horizontalement, pour les faire disparaître. Vous pouvez pousser les pots, les prendre, les poser ou les jeter. De temps en temps, l'écureuil amènera une caisse en bois qui n'aura d'autre utilité que de vous encombrer le passage. À vous de l'utiliser à votre avantage pour mettre de l'ordre dans votre amas de denrées. Plus le jeu avancera et plus l'écureuil amènera rapidement les pots. Il ne tiendra qu'à vous de réagir rapidement et intelligemment pour ne pas vous laisser déborder. Le titre est jouable à une ou deux personnes. Vous pourrez jouer en coopération ou l'un contre l'autre. En plus du mode puzzle, vous pourrez également vous affronter dans une course d'obstacles où votre habilité à manipuler les objets sera la clé du succès. Le jeu possède une réalisation très propre, avec des graphismes colorés et agréables à l'œil, ainsi qu'une animation fluide et détaillée. La bande-son, avec ses inspirations country, reflète bien l'ambiance campagnarde américaine, même si celle-ci s'avérera assez rapidement lassante. La maniabilité, quant à elle, est plutôt bonne. Néanmoins, celle-ci nécessitera un temps d'apprentissage pour pouvoir maîtriser le maniement des objets pour optimiser son timing. Et le fait de devoir appuyer sur la direction O pour effectuer un saut ne vous simplifiera pas la tâche. Ariguma Rascal est donc l'archétype du petit jeu sympa qui plaira aux plus jeunes pour son ambiance et aux plus grands pour son challenge. Nous voici en 1997 sur PlayStation et nous sommes devant un jeu qui à sa sortie a fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'il est inutile que je vous le présente car celui-ci est devenu une série connue de tous. Nous parlons bien sûr du premier épisode de la saga The Grand Theft Auto GTA pour les intimes. Beaucoup d'associations à travers le monde se sont offusquées devant ce jeu où l'on peut tuer des gens à tour de bras, les écraser, enfin bref, faire un véritable carnage. Ce jeu n'a pas vraiment de scénario, il faut juste participer à des missions via les téléphones publics, mais rien ne vous empêche de errer sans but à bord d'une voiture, la radio à fond. C'est tout de même plus pacifiste, même si les plus sadiques s'amuseront à devenir le plus grand tueur en série virtuel. Car même si le jeu prône la violence, c'est un fait indéniable, cela n'en reste pas moins un jeu uniquement. Il ne vous demande en aucun cas de refaire dans la vraie vie ce que vous faites virtuellement. Sinon, on pourrait accuser les jeux de course de nous faire devenir des chauffards, les FPS de nous faire devenir des mercenaires. Donc, prudence, ce n'est qu'un jeu. Dans celui-ci, il faudra réaliser différentes missions, comme prendre une voiture suspecte et la déposer à un endroit précis. Aller chercher un truand et le balader à droite à gauche, etc. Vous aurez la possibilité de prendre les voitures que vous voulez dans la rue. Cependant, rappelez-vous que tout acte de violence sera condamné et vous aurez à vos trousses la police, qui feront vite de vous jeter en prison ou pire encore. Différentes voitures tirées de vraies marques sont disponibles, on les reconnaît d'ailleurs très aisément. Vous aurez entre autres la possibilité de changer la station de radio, de faire des freins à main, des coups de klaxon, etc. On peut dire qu'ils ont pensé à tout. Le personnage n'est pas en reste. Il peut courir, tirer au lance-roquettes, au pistolet, à la mitrailleuse et même se servir d'un lance-flamme. Mais aussi collecter divers objets et lâcher quelques bruits corporels. Charmant, n'est-il pas ? Graphiquement, le jeu est en vue de dessus, car oui, à l'époque, il aurait été difficile, pour ne pas dire impossible, de faire un jeu en 3D qui permet une véritable liberté. Car c'est bien le point le plus positif du jeu, nous sommes totalement libres des mouvements et des actions. Cependant, même si le jeu est en 2D, il reste parfaitement bien réalisé, et un effet de zoom nous aide pour les déplacements, si l'on roule ou si l'on avance, permettant de mieux anticiper les déplacements. Les musiques et les bruitages sont dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque, mais rien de vraiment transcendant. Ma conclusion est sans appel, ce jeu est vraiment sympa et le jury a délibéré aussi. Un jeu sauvage et défoulant qui vous fera passer quelques heures dessus. Affaire classée. Shark Shark sur Intellivision est une cartouche sortie en 1982 et initialement conçue par Don Douglow et Ji Wen Cao, l'une des premières programmeuses dans l'histoire des jeux vidéo. Le joueur incarne pour commencer un tout petit poisson dont le but est de manger ses semblables de la même taille que lui, tout en évitant les autres vertébrés aquatiques tels que les poissons de taille supérieure, des méduses, des crabes, mais surtout un gros requin noir au déplacement imprévisible. Le gameplay reprend le principe de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire qu'après avoir mangé un certain nombre de poissons ayant la même taille que vous, celui-ci grossira et il sera donc capable de manger une plus grande variété de poiscailles sans bien sûr qu'il ne soit plus gros que lui. Vous avez compris le principe. Malgré un concept simple, Shark Shark dispose de pas mal de subtilités, comme par exemple le fait de donner des coups d'accélération vers la droite ou la gauche, ou de pouvoir tuer le requin noir en lui infligeant quelques morsures sur le bout de sa nageoire arrière. Plus vous marquerez de points et plus les ennemis seront rapides et finalement des méduses invulnérables seront ajoutées, ce qui rendra le jeu beaucoup plus coriace. Mattel avait initialement considéré ce titre comme un jeu mignon pour des enfants et qu'il avait peu de chances de faire une percée importante dans la communauté des joueurs de l'époque. Cependant, le marché a pris Mattel au dépourvu. Quand ils se sont rendus compte de la popularité du jeu qui a grimpé en flèche, leur obligeant de fabriquer rapidement un autre lot de cartouches. La première distribution n'était que de 5600 unités. Shark Shark fait clairement partie des meilleurs titres de l'Intellivision. Dommage qu'il ne se soit distribué qu'à quelques milliers d'exemplaires seulement. Depuis, il y a eu tout un tas de jeux qui ont repris le principe de la chaîne alimentaire aquatique, dont la célèbre série des Feeding Frenzy, publiée par Pop Cap Game aux alentours de 2004. La seconde moitié des années 90 fut difficile pour de nombreuses séries lors du passage de la 2D à la 3D. Ce fut encore plus difficile pour SNK, car avec le lancement de leur nouveau système Hyper Neo Geo 64, il fallait maîtriser une nouvelle méthode de programmation sur un nouveau hardware. Garo Densetsu, Wild Ambition. Nous connaissons tous le funeste destin de l'Hyper Neo Geo 64. Donc penchons-nous plutôt sur l'un de ces jeux, à savoir l'adaptation de l'une des plus anciennes franchises de SNK, Garo Densetsu. L'histoire est toujours la même, la quête des frères Bogart, en particulier Terry, pour retrouver et défaire Geese Howard afin de venger la mort de son père. Pour cet épisode, le choix des personnages est des plus éclectiques. Aux figures mythiques de la série, à savoir Terry, Andy, Joe, May et Kim, s'ajoutent des têtes bien plus connues comme Billy Kane et Yamazaki, et plus étonnant, le retour de Raiden, personnage que nous n'avions pas vu sous cette forme depuis le premier Fatal Fury. Deux petits nouveaux viennent grossir les rangs, Tsugumi et Toji, deux personnages au charisme, il faut l'avouer, assez inexistant. Ce qui nous fait donc un total de 10 personnages sélectionnables, plus un Geese Howard bien planqué. Niveau gameplay, nous restons sur des bases bien connues. Les commandes restent typiquement les mêmes que dans les précédents opus. La seule exception étant le bouton D qui servira à pivoter autour de son adversaire en lieu et place du changement de plan des versions 2D. Dès sa sortie, le système Hyper Neo Geo 64 était obsolète. Et ça se ressent sur ces jeux. La réalisation graphique de ce Garou Densetsu est vieillotte, avec ses personnages assez cubiques, dignes d'une PlayStation, support sur lequel le jeu sera d'ailleurs adapté un peu plus tard. Cet écueil est toutefois compensé par des décors 2D animés, ce que ne proposaient pas des titres équivalents de l'époque comme Tekken ou Street Fighter EX. L'animation plutôt rapide et la maniabilité assez réactive permettront aux habitués de la franchise de retrouver assez rapidement leur marque. Côté sonore, on notera une bande-son plus discrète qu'à l'habitude avec des thèmes moins marquants. Les bruitages restent quant à eux analogues à ce qu'avait déjà proposé la série auparavant. Avec le recul, il faut bien admettre que ce Garou Densetsu Wild Ambition est loin d'être un mauvais jeu dans le fond. Et si on devait lui reprocher deux choses, ce serait primo, son support déjà has-been lors de sa sortie, qui ne permet pas au jeu de rivaliser techniquement avec la concurrence, et secondo, le manque de base des programmeurs qui se sont contentés de faire un Fatal Fury sans réelle nouveauté, ne misant que sur la 3D pour attirer les joueurs. Vous êtes l'agent Kelly, un agent de police préposé dans un grand magasin et vous devez empêcher tout voleur de venir commettre leur forfait dans votre juridiction. Mais votre plus grand ennemi, un voleur nommé Harry, va vous mener la vie dure. Voici ce qui pourrait résumer le mini-scénario de ce jeu sorti en 1983 sur Atari 2600 et développé par Activision. Ce petit jeu sans prétention, quoique très bien réalisé pour l'époque, vous demandera de vous saisir de Harry le voleur et pour ce faire, vous devrez courir après lui. Mais là où cela se complique, c'est que le jeu se déroule sur plusieurs niveaux. 4 avec le toit du grand magasin et que vous devrez en plus le capturer dans un temps limite. 3 niveaux sont disponibles par le biais d'un ascenseur et le dernier est accessible par l'escalier se trouvant au 3e étage. Bien entendu, il y a des escaliers de part et d'autre de chaque niveau. Harry, quant à lui, est loin d'être bête, et il sentira votre présence sur l'un de ses étages. Cela sera donc à vous de bien choisir le moment pour monter le capturer, sans quoi il s'enfuira dans la direction opposée. Malgré tout, l'agent Kelly est un pur athlète et peut courir beaucoup plus vite que lui. Au fur et à mesure des niveaux, Harry sera de plus en plus intelligent et des obstacles commenceront à joncher le sol, ce qui a pour effet, si vous les touchez, de baisser le temps imparti aux joueurs. Une carte du magasin est visible en bas de l'écran, ce qui permet d'anticiper les déplacements du voleur. Le maniement de l'agent Kelly est parfait. Il saute, il court, tout répond au doigt et à l'œil. Keystone Capers est un jeu à écran fixe, comme beaucoup de titres de l'époque, surtout sur un support aussi limité. Les musiques sont inexistantes et les bruitages sont assez quelconques. C'est donc un jeu assez prenant qui scotche toujours autant les joueurs malgré son âge. Un bon petit jeu rétro que je ne saurais conseiller. Halt Police.
Huh, spider sense tingling, signaling danger. Trouble up ahead. Let's go, Spider-Man. Party's over, Scorpius.
Spider-Man, the video game, ou Spider-Man, le jeu vidéo, hein, est un subtil mélange entre un beat'em up et un plateforme action. Il a été développé et édité par Sega sur son système 32 en 1991. Comme son nom l'indique, cette borne d'arcade vous propose de prendre le contrôle de l'homme araignée, mais aussi de trois autres super-héros issus de l'univers Marvel Comics. Parmi eux, nous avons Hawkeye, reconnaissable comme l'un des Avengers. Ses attaques et ses capacités tournent autour de l'utilisation de son arc et de ses flèches. Namor, The Submariner, en tant que citoyen de l'Atlantide, utilise des projectiles sous forme d'explosions hydroélectriques. Et Black Cat, la chatte noire, qui est à mon avis le personnage le plus agréable à utiliser, bon, pas à cause de son physique de rêve, non, mais parce qu'elle est rapide, agile et légèrement plus efficace au niveau des coups rapprochés. La borne pouvait accueillir jusqu'à 4 joueurs simultanément. Chaque super-héros possède un ensemble de mouvements et de coups spéciaux attribués à chacun des deux boutons d'action. Par exemple, il sera possible de faire une attaque volante en appuyant sur le bouton d'attaque après avoir atteint l'amplitude maximale lors d'un saut. Mais le point fort reste indéniablement les changements de plan, basculant agréablement entre deux styles de gameplay différents, une phase purement beat'em up, avec des décors en 2,5D, avec des sprites de grosse taille, superbement animés, et une phase plateforme action en vue de loin, avec cette fois-ci des sprites plus petits, afin de respecter l'échelle bien sûr, où les personnages peuvent s'accrocher au plafond et sauter joyeusement d'un étage à l'autre sans la moindre difficulté. On peut dire que techniquement le système 32 est bien exploité, avec une animation hyper fluide et des graphismes bien maîtrisés. Tout comme la bande-son qui est partiellement constituée de musique du jeu Quartet de Sega sorti en 86. On pourrait à la limite regretter les bruitages de certains ennemis qui poussent un cri bizarrement efféminé lorsqu'on les tue. Malgré tout, cette adaptation nous plonge agréablement dans l'univers Marvel. D'ailleurs, cette borne connut une grande popularité auprès des joueurs américains, contrairement à l'Europe où le succès fut plus mitigé.
Scratch one green goblin. Spider sense tingling, signaling danger.
スキャナーやビデオを使えば表現力もぐーんと広がって遊びみたいに仕事ができちゃう。
Si la société Sharp est avant tout connue pour ses produits hi-fi vidéo, la firme a comme ses concurrentes touché également à l'informatique. Celle-ci s'est illustrée avec plusieurs modèles de micro-ordinateurs dont les plus connus sont les gammes MZ ou X1. Au début de l'année 1987, Sharp lance le remplaçant des modèles X1, le X68000. Nommé comme tel à cause de son processeur Motorola 68000, un processeur équipant déjà de nombreuses machines telles que l'Amiga ou l'Atari ST, le X68000 se démarque par une architecture bien plus musclée que la concurrence.
見てください、この質感。カチッとして、シャープでしょ。全部こいつが計算して自分で書いてくれるんですよね。これはもう数字のアートですよ。
Là où les autres micros se destinent plutôt au grand public, le X68000 vise avant tout une certaine élite assez fortunée de par son prix de vente élevé. Il faut dire que d'un point de vue ludique, la machine est à la hauteur des bornes dispo au même moment dans les Game Centers. Partant de là, il n'est pas étonnant de voir le X68K accueillir en son sein de nombreuses conversions de jeux d'arcade très fidèles aux matériaux d'origine. On citera pêle-mêle Afterburner 2, Bubble Bobble, Kelnov, Nemesis, Parodius, Salamander, Spacerier, Super Hang-On, Twinbee, Viewpoint, etc. Sans oublier des adaptations quasi parfaites des jeux CPS1 comme Final Fight, Street Fighter 2, Strider et Ghouls and Ghosts. Ce n'était d'ailleurs pas bien difficile, sachant que le CPS-1 est un dérivé du X68000 et que le micro servait de station de développement lors de l'élaboration de ces jeux. Fonctionnant avec le système d'exploitation Human 68K, un équivalent de MS-DOS développé par Sharp et Hudson Soft, le X68000 était donc, à l'instar de ses équivalents occidentaux de chez Atari et Commodore, une machine tout à fait adaptée au développement amateur. Durant sa vie commerciale, le X68000 aura subi plusieurs liftings. On dénombre 20 modèles différents en tout, dont les variations vont du processeur à la quantité de mémoire, la taille du disque dur, le type de lecteur de disquette ou le format de l'unité centrale et son coloris. Les deux derniers modèles de X68000 sortiront en mai 1993. Difficile de savoir à combien d'unités s'est écoulé le X68000 durant sa carrière, mais il est indéniable de penser que ce fut un véritable succès malgré un prix élevé. Le micro de Sharp n'en reste pas moins l'une des machines les plus emblématiques de son époque, et ce, malgré une exploitation commerciale limitée au seul marché nippon.
Sharp.